c'était vraiment pas l'équipement qui nous faisait avoir des idées. On n'a pas besoin du tout d'un équipement sophistiqué pour créer une époque.
Charlotte Perriand, un art de vivre.
Le Corbusier et Pierre Jeanneret, architectes, 35 rue de Sèvres, Paris. Paris, 17 mars 1932. Certificat. Je sous-signais Le Corbusier, certifie que Madame Charlotte Perriand, architecte de Paris, travaille avec nous en tant qu'associée depuis plusieurs années, tout particulièrement dans les travaux relatifs à l'équipement de la vie domestique. Madame Perriand possède dans ce domaine des qualités exceptionnelles d'invention, d'initiative et de réalisation. C'est elle qui a l'entière responsabilité dans la réalisation de nos équipements domestiques. Elle peut entreprendre toute étude relative à la réforme de l'habitation et en suivre la réalisation.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Charlotte Perriand, première grande exposition en 1985. C'est alors une petite octogénaire tonique. Et elle est très satisfaite de voir regrouper tout ce qu'elle a fait en France, au Japon, au Brésil, à Paris, à la montagne. Le mobilier en alu chromé, en plastique, en bois, en bambou. Tout était contemporain, dit-elle, car rien n'avait obéi aux gadgets d'une mode. Laura Adler, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Vous avez connu Charlotte Perriand à ce moment-là?
Oui, à la fin de sa vie.
Mais enfin, elle avait 82 ans et elle était, je disais tonique, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'était une femme à la fois extrêmement généreuse, très drôle, avec beaucoup d'humour et d'ironie, et en même temps totalement intransigeante sur ses principes qu'elle avait édictés, et qu'elle va pratiquer jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire l'épure, la simplicité, l'efficacité et l'art pour tous.
Alors une grande expo à la Fondation Vuitton, une autre d'une autre dimension à la Galerie Dompton, et puis alors une pluie d'ouvrages, les plus massifs, l'œuvre complète, Jacques Barsac, 4 volumes.
5.
5.
Maintenant, le dernier vient de sortir. C'est une œuvre monumentale. C'est une histoire assez extraordinaire parce que c'est une histoire d'amour. Jacques Barsac est réalisateur de télévision et cinéaste, et il a rencontré la fille de Charlotte, qui est une femme exceptionnelle, elle a de qui tenir, vous me direz, elle s'appelle Pernette, et l'amour peut aller très loin, comme vous le savez, et avoir des conséquences absolument magnifiques. Jacques est tombé amoureux de Pernette, d'abord je pense d'abord de la mère, puis ensuite de la fille, et il s'est aperçu que cette femme extraordinaire qui s'appelait Charlotte Perriand n'avait pas de reconnaissance assez grande dans le monde des arts. Et il s'est aperçu aussi que dans cet art éphémère qui est le design, il y avait très peu de traces. Et comme Charlotte n'était pas quelqu'un qui était très conservatrice, ni dans le sens politique du terme, ni dans le sens d'archiver ce qu'elle faisait, il s'est mis au service de Charlotte et il a fait ces 5 volumes de catalogue raisonné qui sont véritablement des chefs-d'œuvre de précision et de l'histoire de l'art contemporain.
Alors ça, c'est chez Norma. Et puis il y a votre livre plus cursif, heureusement, Laura Adler, chez Gallimard. Elle habitait non loin de chez Gallimard et je me souviens d'amis qui étaient ses locataires et qui s'étaient dit, signant un bail, elle avait 90 ans, on va être tranquille dans cette maison. Et plus de 90 ans, elle a entrepris un immense chantier dans son immeuble.
Ben oui, elle habitait au-dessus. Moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs rendez-vous avec elle. Elle habitait un appartement extrêmement petit, mais sur 2 niveaux, où tout était millimétré de manière absolument remarquable, et où la lumière entrait avec des panneaux de verre coulissant, et où tous les meubles avaient été préfabriqués, c'est-à-dire que il n'y avait pas de chaises, il n'y avait pas de table, tout était déjà, les meubles étaient fonctionnels pour permettre, et j'y ai dormi une fois, pour permettre aux personnes qui y logeaient d'être dans le maximum d'espace, dans une superficie très étroite, mais tout en se sentant vraiment complètement libre.
Avec les fenêtres qui ouvraient sur les espaces.
Le ciel. Le ciel. C'était le ciel qui l'intéressait.
Alors, de son travail, il faut dire qu'il a commencé pendant une dizaine d'années chez Jeanneret, le cousin de Le Corbusier.
Mais pas du tout, mon cher Jean Lebrun.
Chez Le Corbusier et Jeanneret?
Non! Elle a commencé avant. Il faut arrêter de perpétuer les clichés machos comme quoi Charlotte serait la fille aînée du Corbusier et sans lui, elle n'aurait pas existé. Pas du tout.
Il y a la première expo à laquelle elle participe.
Parce qu'elle avait été reconnue. Elle avait été une élève des Arts Déco qui était une pépinière où les jeunes filles pouvaient exprimer leur rapport à leur créativité. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits comme ça à Paris où les jeunes filles avaient droit d'exister artistiquement. Et après, elle a été sélectionnée. C'est-à-dire, c'est Le Corbusier et son cousin germain, Pierre Jeanneret, qui ont remarqué dans des expositions d'art contemporain l'excellence de Charlotte Perriand. Mais arrêtons de dire que Charlotte n'existerait pas sans Le Corbusier. On peut peut-être dire le contraire. Le Corbusier n'existerait peut-être pas sans Charlotte.
Et Jeanneret, c'était le cousin du Corbusier, puis aussi le compagnon de Charlotte.
Ah mais là, vous brûlez les étapes, hein. L'amour c'est plus compliqué, cher Jean.
Ça mène très loin. Mais Le Corbusier, ça dure longtemps, l'atelier. C'est pour ça que l'amour est né entre Jeanneret et,
alors, en fait,
et Charlotte, ça dure 10 ans.
Moi, j'ai été très passionnée de faire ces recherches. Le livre est très modeste, hein. C'est un portrait sensuel et artistique d'une personne qui était jusqu'à aujourd'hui, je crois, trop peu connue et qui, je l'espère, va sortir un peu du bois et on va pouvoir reconnaître son immense talent. Mais ce qui est absolument passionnant, c'est de voir à quel point cette femme va faire un métier d'homme en toute indifférence, avec la possibilité pour le génie qui était Le Corbusier et Pierre Jeanneret qui était le cousin germain, l'associé du Corbusier. Mais c'est pas encore l'histoire d'amour qui va faire exister artistiquement, intellectuellement Charlotte Perriand. Elle existait avant et si elle a été repérée par Le Corbusier, ça vous fait rire.
Non mais j'arriverai pas à vous faire faire l'histoire sexuelle, seulement sensuelle de Charlotte Perriand.
Non mais ce qui est très intéressant, c'est que si Le Corbusier engage Charlotte Perriand dans son fameux monastère pour travailler avec lui et avec son cousin germain Pierre Jeanneret, c'est parce qu'à ce moment-là, il se rend compte, Le Corbu, qu'il n'est pas du tout doué pour faire les équipements intérieurs des espaces qu'il construit. Et donc, dans l'archive passionnante qu'on a entendue tout à l'heure, on s'aperçoit qu'effectivement, Le Corbusier et Pierre Jeanneret vont délivrer ce fameux certificat à Charlotte Perriand, parce que Charlotte Perriand n'a jamais été l'employée du Corbusier.
C'était une associée.
C'était une associée à égalité.
Dans un monastère, j'ai retenu le mot. Le mot couvent, d'ailleurs, est utilisé ici par Charlotte Perriand, elle-même, dans une émission avec Paul Chavas de 1985. Elle parle de l'atelier du 35 rue de Sèvres.
Les journées à l'atelier de Le Corbusier, donc, c'était cet atelier de la rue de Sèvres qu'il a eu jusqu'à la fin de sa vie,
jusqu'à la fin de sa vie. C'était le couloir d'un ancien couvent, rue de Sèvres. Il n'existe plus. Le sol était en dalle de pierre posée. Il y avait un poêle avec un grand tuyau de poêle. Il y avait des planches sur des tréteaux. Puis il y avait beaucoup de murs dans lesquels on pouvait punaiser nos plans. On y crevait de froid, littéralement l'hiver. J'ai même vu mettre des papiers journal en dessous mes pieds pour ne pas en sortir les pieds totalement gelés. Mais on reconstruisait le monde. Et avec tous les étudiants qui venaient de tous les pays étrangers, c'était les meilleurs. Et ils venaient précisément à Corbusier, parce que Corbusier exprimait des choses nouvelles et son époque. Et ils venaient là avec des mentalités différentes, avec des coutumes différentes. Et au contact de ces garçons, on travaillait dans la journée, et le soir on discutait sans fin à reconstruire le monde, et je dois dire que ça c'était très enrichissant. Je dois ajouter encore autre chose, à cette époque, chez Le Corbusier, pratiquement tous, c'était du travail bénévole, et certains faisaient, en dehors de ça et en plus, un travail qui leur permettait de survivre.
C'est-à-dire la nuit alors?
Ou le matin très tôt avant de venir chez Corbu.
Question Laura Adler de notre réalisatrice Audrey Ripouille. Mais les meubles dont elle était l'auteur, je ne sais pas, la chaise longue basculante fameuse, c'était signé seulement de Charlotte Perriand?
C'est une très bonne question, parce que c'est une question épineuse de l'appropriation de du Corbusier vis-à-vis de Charlotte. C'est-à-dire que quand leur collaboration a commencé, Charlotte a été emmenée par Corbusier dans les villas pour riches qu'il faisait aux alentours de Paris. Il mettait généralement du bac pour l'impressionner et lui faisait visiter les espaces vides. Et à partir de ce moment-là, Charlotte devait imaginer les meubles. Ensuite, Charlotte a proposé des meubles à Corbusier et à Pierre Jeanneret. Et cette collaboration est devenue tellement active qu'elle s'est illustrée par des choses exceptionnelles. La fameuse chaise longue, on est toutes... Moi, j'étais persuadée, avant de faire ces recherches, que c'était une chaise longue qui avait été imaginée par Corbusier. Eh bien non, c'est Charlotte qui l'a imaginé de bout en bout. Et d'ailleurs, l'exposition qu'on peut voir en ce moment à la Fondation Vuitton retrace toute l'archéologie des recherches ergonomiques, techniques, professionnelles, des matériaux choisis par Charlotte, des poses qu'elle a prises sur cette fameuse chaise longue basculante, etc., etc. Mais petit à petit, qu'est-ce qu'il a fait, Corbu? Il a décidé que les inventions qui étaient faites soi-disant de manière collective dans le fameux couvent que Charlotte Perriand évoquait il y a quelques minutes dans l'archive de Paul Chavas, il a décidé qu'il fallait mettre les créations par ordre alphabétique. Eh ben, Corbu, ça commence par un C.
Non, mais
il est
macho, Corbu.
Après.
Il est macho.
Et petit à petit, eh ben, l'ordre alphabétique, finalement, s'est résumé au premier nom.
Alors, vous parlez des villas pour riches. On connaît moins l'immeuble du Corbusier pour l'armée du salut. Question d'Audrey Ripouille, c'est où? Ben, rue Cantagrel, dans le 13e arrondissement. Est-ce que le Corbusier, c'est suffisamment, dans cet abri pour les clochards, intéressé aux conditions de vie à l'intérieur? Un architecte venu sur le tard dans l'endroit, Pierre Vago, en doute.
Il a fait une énorme façade, qui est une verrière, où on a l'impression d'être dans la rue, mais qui ne donne pas sur un beau parc, qui donne sur les voies d'une gare de triage, de la gare d'Austerlitz, sur un paysage aussi rébarbatif et repoussant que possible. Et alors, quand j'ai visité ça avec la générale ou quelque chose comme ça, de l'armée du salut, j'étais frappé par la puanteur. Ça sentait mauvais. Il y avait tous ces gens. Enfin, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Non, parce qu'il y a le conditionnement. Mais alors, le conditionnement. Ben oui, mais il fait tellement de bruit que la nuit, on ne peut pas le faire marcher. Alors, ces gens-là, non seulement avaient l'impression d'être dans la rue, mais ils étaient encore empoisonnés par la mauvaise odeur. Alors, non, c'est pas possible. Ça a beau être un bon morceau de sculpture, je ne peux pas l'accepter, l'admettre comme une réussite architecturale.
Heureusement, il y avait Charlotte Perriand pour mesurer, calculer, prévoir les lits. Vous insistez beaucoup là-dessus.
Oui, parce que Charlotte Perriand, c'est une penseuse de l'espace. Et c'est quelqu'un qui ne cherche jamais la démesure, mais l'équilibre. Et je pense que son corps lui-même, qui était extrêmement charpenté, c'était une fille très sportive, qui assumait des risques, qui faisait de l'escalade en montagne, qui a pris des bateaux sans avoir de destination. Enfin, c'est quelqu'un de l'illimité, mais avec un ordre intérieur dans son esprit et aussi dans son âme. Et donc, quand elle va à l'intérieur de cette armée du salut, elle pense à quoi? C'est une femme très pragmatique. Elle pense à aller comprendre d'abord, avant d'imaginer quoi que ce soit, comment vivent les clochards. Et donc, elle va aller passer des semaines dans les rues de Paris, jour et nuit, pour aller observer leur comportement. Avec quoi ils se baladent, comment ils se comportent, de quoi ils ont besoin pour ne pas avoir trop d'angoisse quand ils acceptent d'être dans un endroit fermé et de ne pas dormir sur le trottoir. Et elle s'aperçoit que les personnes qui sont contraintes de vivre dans la rue, ils n'ont qu'une chose. C'est un sac, un petit sac, un petit ballot. Et donc, elle conçoit des lits qui soient confortables pour pouvoir leur permettre de récupérer des forces dans la nuit qu'ils vont passer dans le refuge. Et elle conçoit au bout de ce lit, quoi? Un petit endroit où ils pourront accrocher leur ballot, le toucher du pied, ou même s'ils se réveillent en pleine nuit, pouvoir vérifier si on leur a pas volé. Voilà, c'est des petits détails, vous me direz. Mais en même temps, ça prouve à quel point l'architecture est un art de l'accomplissement vers les autres et vers le mieux vivre.
Alors, si j'ai bien compris, vous m'avez repris tout à l'heure, l'or, elle peut vivre sans Le Corbusier. Et en 1937, elle quitte l'atelier du Corbu. Elle va mener sa barque à sa guise, mais la guerre...
Ils sont fâchés, hein, il y a des lettres terribles.
La guerre est là, c'est l'écueil. Eh ben d'ailleurs... Et ça, c'est assez étrange, vous allez nous expliquer ça dans un instant. Rejoindre le Japon, à un moment clé, l'intermédiaire a été un des membres de l'atelier couvent de la rue de Sèvres, Junzo Sakakura.
Le Japon a réellement été une très grande aventure pour vous.
Ça a été une aventure, et ça a été une découverte. Le Japon, c'était aller dans la Lune, aller au Japon. Et j'hésitais, c'était la guerre tout de même. La date était décidée pour le mois de juin. Et justement, au mois de juin, eh ben, le 14 juin, les Allemands rentraient à Paris. Et le 12 juin, moi, je quittais Paris. Ça a été une aventure parce que d'abord, mon bateau, il a fait le contour par l'Afrique du Sud. Et j'ai mis 2 mois et demi pour arriver au Japon. Et là, blackout. Voilà, que je me trouvais dans un pays où on sentait des possibilités de guerre. Il y avait des exercices de défense passive qui me paraissaient dérisoires d'ailleurs, parce que c'était la population qui était mobilisée avec des seaux, ils faisaient la chaîne pour éteindre des incendies imaginaires, mais il faut dire que c'était des maisons de bois et de papier et de paille, c'est-à-dire des torches en fait. Des petites maisons de bois, très modestes extérieurement, je n'avais pas encore compris la grande beauté de ces maisons traditionnelles japonaises. Je n'en voyais que le côté extérieur, c'est-à-dire pas du tout de modernité, tout compte fait. Et je suis arrivé à Tokyo. Sur le moment, le Japon me déroutait. Les bruits au train, aux gares, étaient un bruit très nostalgique. Des guettas, c'est-à-dire des espèces de sabots, si vous voulez, mais ce n'est pas des sabots, c'est en bois. Et ça fait sur le sol clac, clac, clac. Plus la voix japonaise souhaitant la bienvenue aux voyageurs. Tout cela était pour moi une sonorité différente.
Nippon, émission consacrée au Japon et à l'Asie orientale.
Le Japon vise plus loin et plus haut. Il veut s'efforcer d'obtenir pour tous les habitants de l'extrême-orient des conditions de vie acceptables, honorables, instaurer un ordre économique qui ne soit plus celui des esclavagistes.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Oui, j'entends bien, Laure Adler, vous consacrez un livre à Charlotte Perriand qui vient de paraître chez Gallimard, que Charlotte Perriand a appris beaucoup de la tradition de la construction japonaise, mais enfin, elle s'est trouvée là à un moment un peu inopportun, au temps du nationalisme, de l'impérialisme japonais. On l'entend rarement, dans ce secteur-là en tout cas, parler de politique.
C'est plus compliqué que ça, je crois. Personnellement, c'est une énigme. Je ne comprends toujours pas pourquoi Charlotte Perriand, qui avait décidé de partir vers New York, comme bon nombre d'artistes et d'intellectuels, vivre la période de la guerre et prendre un bateau, a changé d'idée. J'ai quelques hypothèses, elles sont sentimentales. Elle a voulu s'éloigner manifestement de la France, où son amoureux, elle avait peut-être pas envie de continuer à vivre cette histoire d'amour, elle avait besoin de s'éloigner, c'est mon hypothèse. Par contre, grâce à Pernette Perriand, j'ai pu avoir
la fille
des
qu'elle
archives,
a eu d'ailleurs à cette époque-là.
Oui, des archives inédites du journal qu'elle a tenu pendant la traversée jusqu'au Japon qu'elle vient d'évoquer. Et à partir du moment où elle se retrouve en bateau, elle est complètement paniquée de cette prise de décision. Elle se dit « Mon Dieu, pourquoi est-ce que je suis partie ?» etc. Mais elle est partie, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, un de ses camarades du couvent Le Corbusier l'a invitée et elle est partie pour répondre à une invitation du gouvernement japonais qui lui proposait d'essayer de cartographier les pratiques artisanales dans l'ensemble du territoire japonais et de sélectionner les meilleurs objets artisanaux qui pourraient être au service de la commercialisation des traditions du Japon. Donc
reste
c'était pas
question,
n'importe quoi.
Reste la question, quel gouvernement japonais ? Faudrait faire le rapprochement avec Fujita, le peintre qui lui était japonais, mais qui a aussi quitté la France pour se retrouver dans son pays et qui s'est trouvé coincé pendant toute la période de la guerre.
Est-ce que vous pensez qu'elle a collaboré avec le gouvernement japonais ?
Non, mais je pense...
Elle n'a pas pris position,
à ma connaissance. Je pense intimement, ayant lu par exemple ses textes sur la Chine de Mao, qu'elle a visité beaucoup plus tard, qu'elle n'est pas insensible au fait qu'il y ait une unité organisée par le gouvernement du peuple.
Alors
je
vous
suis
avez...
assez sensible à l'unité du peuple, dit-elle.
Oui, alors vous avez tout à fait raison, d'autant plus qu'elle a fait aussi plusieurs voyages pour Corbusier en Union soviétique, qu'elle a vécu dans différentes grandes villes et qu'elle a même songé à aller s'établir en Union soviétique pour aider le peuple à accomplir architecturalement cette idéologie à laquelle elle a tant communié.
Néophyte moscoutaire, avait dit d'elle à ce moment-là Le Corbusier, qui, lui, baignait dans un bain fascistoïde assez régulièrement.
Oui, mais il faut quand même préciser que Charlotte et Le Corbusier se sont terriblement engueulés sur ce point-là. Et qu'elle a été, elle n'a jamais été collabo, elle a toujours été d'une liberté totale et d'une intransigeance extraordinaire.
Et avant-guerre, elle était du côté de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires.
Et elle a beaucoup milité pendant le Front populaire.
D'où l'énigme japonaise néanmoins. Au retour, elle n'a pas le diplôme d'architecte. Vichy a créé l'ordre des architectes. Il labellise les métiers. Alors, elle travaille à chaque opportunité possible. Les chambres d'étudiants de la cité universitaire sont extraordinaires. On voit beaucoup de photos dans votre livre. Mais c'était une photographe étonnante.
Ben écoutez, moi, ma modeste ambition, c'est qu'on puisse continuer à découvrir l'ampleur des dons de Charlotte et notamment celui de photographe. Alors il faut préciser, ça aussi c'est très intéressant, c'est que les filles, quand elles avaient 25-30 ans en 1928-1930, les filles qui étaient photographes, artistes, architectes, etc., elles se baladaient avec un appareil photo autour du cou parce que c'était exactement comme tenir un carnet et prendre des notes. Donc il y a tout un mouvement de femmes engagées idéologiquement et politiquement vers la gauche, qui documentent le réel. Ça peut être les clochards qu'on évoquait, ça peut être les étudiants, ça peut être surtout les grèves ouvrières qu'elles ont suivies grâce à leurs appareils photographiques. Et si jamais, après cette exposition qui a lieu en ce moment même à Paris, on pouvait faire une exposition récapitulant l'ampleur du registre photographique et innovateur de Charlotte, ça serait magnifique.
Elle photographie aussi les montagnards, parce qu'elle fait beaucoup de montagnes, vous le disiez, avant-guerre. Et sa dernière grande expérience, qui va durer une quinzaine d'années, c'est aux Arcs dans les Alpes. Les frères Blancs sont propriétaires d'un grand domaine où l'élargissent au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. La datarde Jérôme Bonneau pense à l'équipement et à la multiplication des stations, et puis une sorte de magicien qui s'appelle Roger Godineau, et qui aime les risques, il analyse très systématiquement tous les paramètres.
Alors, les chiffres sont précis. En 1958, il y avait 100 000 skieurs en France. C'est vraiment le gratin. Je veux dire le gratin économique et le gratin de sportif. Et j'ai donc fait, dans les années 60-65, je ne sais plus exactement quand, j'ai fait la première étude de marché du ski. Ces 100 000 skieurs allaient devenir 1 million en 68, c'est-à-dire en 10 ans. Au moment des Jeux Olympiques de 68, il y avait effectivement 1 million de skieurs en France. Par conséquent, on s'est dit, en 20 ans, il y aura 4 millions de skieurs de plus en France. Où vont-ils aller ? Pour servir 4 millions de skieurs, il faut à peu près 400 000 lits. Parce que les lits, si je puis dire, se remplissent à peu près 10 fois par an. Il y a à peu près 10 semaines, si vous voulez, en moyenne, quoi. Il y a 15 semaines d'exploitation, mais c'est pas toujours plein. Donc c'est à peu près 10 à 12 semaines. Donc en gros, c'était 400 000 lits qu'il fallait construire. Et bien 400 000 lits, ça fait 20 stations de 20 000 lits. C'est le plan neige.
Godino aura calculé jusqu'à sa mort le mois dernier. Alors, il a calculé 1600 mètres, les arcs, première étape, 1800 mètres avant 2000, deuxième étape, et là, je vais faire intervenir Charlotte Perriand.
Lorsqu'on a attaqué 1800, Roger Godino, à ce moment-là, a pris une autre vitesse de croisière, en ce sens qu'à 1600, on a construit normalement, un an, deux ans, un bâtiment. Et à 1800, il a fallu construire en 7 mois. Ça nous faisait faire 450 studios, par exemple, en 7 mois. Je dis bien, on commençait à la fonte des neiges, et même on n'attendait pas que ce soit totalement fondu. Et au rush de Noël, le soir même, il fallait des draps dans les lits et des petites cuillères dans les tiroirs. Et ça, c'était une discipline qui, moi, m'a passionné. Et pour moi, ça n'a pas été une contrainte. Ça a été l'occasion de maîtriser un travail bien minuté. Mais cette nécessité de travailler en 7 mois m'a incité à chercher des modules répétitifs, tels que notamment la salle de bain et la cuisine. Parce que il y a les gaines, il y a les canalisations, les évacuations, les amenées d'eau, etc. Et il y a tous les corps d'État. Il y a le plombier, il y a le carreleur, il y a le... Et donc, je me suis orienté vers une cellule préfabriquée.
Alors, longue collaboration, longue amitié, même si, au bout d'un moment, Charlotte Perriand dit, attendez, là, ça tourne aux 2000 lotissements, je n'en suis plus. Laure Adler.
Mais au départ, c'était quand même une idée écologique, avant tout le monde, ce qu'elle a proposé à Roger Godino. C'est-à-dire qu'elle lui a dit, d'accord, on peut essayer de faire beaucoup de logements, à condition de respecter la nature. Donc, elle a proposé des immeubles en 2001, si j'ose dire, apposés au flanc de la montagne, comme pour épouser la montagne, pour ne pas endommager le paysage, et d'autre part, pour permettre aux futurs habitants d'être exposés à la plus belle des lumières. Et ces logements étaient considérés comme quasiment invisibles si on était en avion au-dessus.
Oui, mais question d'Audrey Ripouille qui voit les photos... Comment les gens tiennent debout? Parce que tout paraît penché.
Les appartements sont petits, ils sont extrêmement fonctionnels et ils sont divisés avec une sorte de balcon qui permet une porosité entre l'intérieur et l'extérieur. C'est d'ailleurs un des axes principaux du travail de Charlotte Perriand, et ce pendant toute sa vie. Mais hélas, les promoteurs, Roger Godino disait c'était le gratin-neige. Mais le problème, c'est que quand le gratin se démocratise, et tout le monde souhaite que le gratin se démocratise, il y a aussi des promoteurs immobiliers qui vont faire leur petit beurre et même leur gros beurre pour cette démocratisation. Résultat des courses, l'œuvre architecturale de Charlotte Perriand aujourd'hui est invisible parce que cette espèce de pureté architecturale, dedans, dehors, ce respect de la nature... a été complètement anéanti par les promoteurs immobiliers. Maintenant, il n'y a plus un demi-centimètre de nature et l'œuvre de Charlotte Perriand n'existe plus.
L'esclavage économique, disait-elle souvent. À la Fondation Vuitton, à Paris, une exposition Charlotte Perriand qui va contribuer à revaloriser encore la cote extraordinaire des meubles de Charlotte
Perriand.
Alors,
je voudrais préciser qu'elle n'a jamais gagné un sou. Elle a terminé sans pouvoir financer ses futures créations. Alors que maintenant, si vous voulez, sur Internet, vous acheter un tabouret, va falloir beaucoup économiser.
Et puis, la Galerie Danton, le livre chez Norma en 5 volumes de Jacques Barsac et... illustrer des superbes photos de Charlotte Perriand, le vôtre chez Gallimard. Merci à vous, Laure Adler.
Merci,
vous n'allez
Jean.
Pas à Saint-Dié au Festival de Géographie, une ville corbuséenne pourtant.
Non, parce
presque.
Que moi je vais à la Nuit Blanche.
Et puis à Blois, nous serons la semaine prochaine avec deux émissions le
Mais
jeudi.
Mais j'adore Saint-Dié, j'y étais
le vendredi.
L'an dernier.
Oui, vous en étiez la présidente. Bon, vous avez salué Fabrice Drouel?
Laure Adler, je l'ai salué, on s'est fait un petit signe de la main.
Bon, et alors maintenant,
radio,
qu'est-ce qu'on dit aux auditeurs?
Je vous présente Germaine. Germaine Berton, une jeune anarchiste meurtrière d'un des leaders.
Ah, enfin une femme meurtrière, parce que d'habitude c'est les étrangleurs qui...
c'est une meurtrière, donc elle a tué l'un des leaders des camelots du roi pour venger Jean Jaurès. Pour venger Jean Jaurès.
Ne dites pas de mal de ce pauvre Léon Daudet qui a failli mourir dans la circonstance.
Oui.